Charles Dickens, Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Traduction Paul Laurin. Tome 2, chapitre 1er. Où Monsieur Ralph Nickleby est déchargé par un procédé très expéditif de tout commerce avec sa famille. Smick et Newman Nodge, qui, dans son impatience, étaient revenus chez lui longtemps avant l'heure indiquée, étaient assis ensemble devant le feu, écoutant avec anxiété chaque pas qui montait l'escalier, chaque bruit qui se faisait entendre dans la maison, dans l'espérance que c'était Nicolas qui arrivait. Le temps se passe, il se fait tard, et cependant il avait promis de ne rester qu'une heure dehors. Son absence prolongée commençait à les alarmer sérieusement tous les deux, comme on aurait pu le voir aux yeux mornes qu'ils tournaient l'un vers l'autre à chaque désappointement nouveau. Enfin, on entend un fiacre s'arrêter et Newman sort bien vite une chandelle pour éclairer Nicolas dans l'escalier. En le voyant dans l'état où nous l'avons laissé au dernier chapitre, il resta pétrifié d'étonnement et d'horreur. « Soyez tranquille !» dit Nicolas en entrant avec précipitation dans la chambre. « Je n'ai pas de mal, un peu d'eau et une cuvette. Il n'en faut pas davantage pour tout réparer. »«
Pas de mal !»
cria Newman en passant rapidement les mains sur le dos et sur les bras de Nicolas, pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé.
« Qu'est-ce que vous venez donc de faire ?»«
Je sais tout !» dit Nicolas sans répondre à sa question. « J'en ai entendu une partie, j'ai deviné le reste. » Cependant, avant de laver une de ces gouttes de sang qui vous occupent, je veux apprendre tout de votre bouche. Vous voyez, je suis calme. Mon parti est pris. À présent, mon ami, parlez franchement. Car il ne s'agit plus de rien pallier, de rien calculer, de ménager Ralph Nickleby.
Vos vêtements sont déchirés en plusieurs endroits. Vous boitez, j'en suis sûr que vous souffrez quelque part,
dit Newman.
Laissez-moi commencer par voir si vous vous êtes fait du mal.
« Je n'ai rien à vous faire voir. Je ne me suis pas fait de mal. Je n'ai qu'un peu de roideur et d'engourdissement qui va bientôt se passer, » dit Nicolas en s'asseyant avec quelques difficultés. « Mais quand je me serai cassé tous les membres, pour peu que je conservasse ma connaissance, je ne vous laisserai pas bander une de mes plaies que vous n'eussiez dit tout ce que j'ai le droit de savoir. »«
Allons, »
ajouta-t-il tendant la main à Nodge. « Vous aussi, vous avez une sœur, vous me l'avez dit, qui est morte avant vos malheurs. » « Eh bien, pensez à elle, Newman, et parlez. »«
Oui, je vais parler, » dit Nodge. « Je vais vous dire toute la vérité. »
Newman parla donc. De temps en temps, Nicolas confirmait d'un signe de tête les détails qu'il avait déjà recueillis par lui-même. Mais il tenait toujours ses yeux fixés sur le feu, sans les porter ailleurs une seule fois. Après avoir fini son récit, Newman insista pour que son jeune ami ôtât son habit et se laissât panser les coups qu'il pouvait avoir reçus. Nicolas commença par faire quelques résistances, mais finit par consentir. Et pendant qu'on lui frottait d'huile, de vinaigre et d'autres liminants non moins efficaces, empruntés par Nodge chez tous les locataires de la maison, quelques contusions qu'il pouvait avoir sur les bras et sur les épaules, il raconta comment il les avait reçues. Son récit fit sur l'imagination ardente de Newman une si forte impression qu'en entendant les détails de la querelle, au moment surtout où elle prit un si grand caractère de violence, il se mit lui-même à y penser à l'unisson, en frottant Nicolas jusqu'au sang. Le patient même en aurait peut-être crié, tant le zèle de Newman le faisait réellement souffrir, mais il n'en fit que rire, en voyant que, pour le moment, ce brave homme se croyait aux prises avec Sir Mulberry Hawk et le frottant de main de maître au lieu du client réel dont il avait entrepris la cure. Après ce martyr d'un nouveau genre, Nicolas convint avec Newman que le lendemain matin, pendant qu'il serait occupé à autre chose, on se tiendrait tout prêt pour le déménagement immédiat de sa mère et qu'on prierait Miss La Creevy de venir elle-même y préparer Madame Nickleby. Après, il s'enveloppa du paletot de Smic et s'en retourna à l'auberge où il devait passer la nuit. Là, il écrivit à l'adresse de Ralph quelques lignes que Newman s'était chargé de lui remettre le lendemain. Après quoi, il essaya de trouver dans son lit le repos dont il avait tant besoin. On dit qu'on a vu des gens, dans l'ivresse, rouler au fond des précipices et n'en ressentir aucun mal une fois qu'ils avaient retrouvé l'usage de leur raison. L'ivresse n'a pas seule ce privilège. C'est une observation qui s'applique également à beaucoup d'autres accès de passion violente. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si Nicolas, en s'éveillant le lendemain, ressentit encore quelques douleurs dans les premiers moments, il n'en fut pas moins sur pied, avec assez de facilité à 7 heures sonnantes, et fut bientôt aussi alerte que s'il n'avait rien eu. Après s'être contenté de jeter un coup d'œil dans la chambre de Smic pour lui dire qu'il n'allait pas tarder à recevoir la visite de Newman Nodge, Nicolas descendit dans la rue, monta dans un fiacre, dit au cocher de le conduire chez Madame Wititterly à l'adresse que Newman lui avait donnée la veille au soir. Il n'était encore que 7h15 quand ils arrivèrent à la place Cadogan. Nicolas commençait à craindre de ne trouver personne sur pied si matin. Lorsqu'il vit, avec plaisir, une servante occupée à nettoyer les marches. De fonctionnaires en fonctionnaires, il arriva au soi-disant page, qui parut sur l'horizon tout échevelé, le visage échauffé et bouffi, en page qui vient de sortir du lit. Il sut de ce jeune gentleman que Mademoiselle Nickleby était allée faire sa promenade du matin dans le jardin en face. À la question de savoir s'il ne pouvait pas aller la chercher, le page répondit de manière à laisser penser que la chose était horriblement difficile. Mais à la vue de ce talisman qu'on appelle un shilling, et que Nicolas fit briller à ses yeux, le page plein d'ardeur trouva tout d'un coup la chose très facile. « Dites à Mademoiselle Nickleby que c'est son frère qui est ici, et se meurt d'envie de la voir, » dit Nicolas. Les boutons plaqués disparurent avec une vivacité qui ne leur était pas ordinaire, et Nicolas se mit à arpenter la chambre dans un état d'agitation fiévreuse qui lui rendait insupportable le moindre retard. Bientôt, heureusement, il entendit un pas léger bien connu de son cœur et de son oreille, et, avant qu'il se fût seulement détourné pour aller au-devant de sa sœur, Catherine était pendue à son cou et le baignait de larmes. « Ma chère et tendre enfant, » dit Nicolas en l'embrassant, « comme vous êtes pâle !»« Ah, mon cher frère, j'ai été si malheureuse ici !» Et la pauvre fille sanglotait. « J'ai tant, tant souffert !»« Nicolas, mon ami, ne me laissez pas ici, j'y mourrai de chagrin !»« Vous laissez ?» répondit Nicolas. « Je ne vous laisserai plus ni ici ni ailleurs, Catherine, jamais !» En disant cela, il pleurait malgré lui, plein d'une émotion tendre, en la pressant contre son cœur. « J'ai besoin que vous me disiez, ma sœur, que j'ai fait pour le mieux, que je ne vous aurais pas quitté si je n'avais pas craint de faire retomber ma disgrâce sur votre tête, que j'en ai pas moins souffert que vous. En un mot, que si j'ai eu quelque tort, c'était sans le savoir et faute de connaître le monde. » « Et pourtant, voulez-vous que je vous dise ce que nous savons tous si bien ?» répliqua-t-elle d'un ton à calmer le trouble de son frère. « Nicolas, mon cher Nicolas, comment pouvez-vous vous laisser attendrir ainsi ?»« Ah !» dit son frère, « si vous saviez tous les reproches que je me fais, en voyant les peines par où vous avez passé et vous retrouvant si changée et pourtant si bonne, toujours et si patiente !»« Dieu !» cria Nicolas, fermant le poing, et changeant tout à coup de ton et de physionomie. « Je sens encore une fois mon sang bouillonner dans mes veines. Il faut que vous sortiez d'ici sur le champ avec moi. Vous n'y auriez pas même couché cette nuit si j'avais su plus tôt ce que je sais. À qui faut-il que je m'adresse pour annoncer que je vous emmène ?» Cette question ne pouvait venir plus à propos, car M. Wititterly entrait à l'instant même, et Catherine en profita pour lui présenter son frère qui lui fit part en même temps de son projet et de la nécessité où elle était de ne pas le différer d'une minute. « Vous savez, » dit M. Wititterly avec la gravité d'un homme qui tient le bon bout, « vous savez que le trimestre n'est pas même à moitié expiré.
Par conséquent, reprit Nicolas en l'interrompant, elle doit prendre son trimestre.
Monsieur, je vous prie de nous excuser si nous nous montrons si pressés, mais des circonstances impérieuses exigent que j'éloigne ma sœur à l'instant même. Je n'ai pas un moment à perdre. Si vous voulez bien me le permettre, j'enverrai chercher les effets qu'elle peut avoir ici dans le courant de la journée.
Monsieur Wititterly s'inclina, sans faire la moindre difficulté, sur le départ immédiat de Catherine,
qui lui faisait d'ailleurs, il faut bien l'avouer, plus de plaisir que de peine.
Car Sir Tumless Nuffim avait exprimé l'opinion que cette demoiselle n'allait pas à la constitution de Madame Wititterly.
« Quant à la petite bagatelle de ce qui lui est dû, » dit Monsieur Wititterly, « je la... »
Violent accès de toux qui l'interrompit mal à propos.
« Je la devrai à Mademoiselle Nickleby. »
Il est bon de savoir que Monsieur Wititterly aimait assez à devoir quelques petites choses, et à les devoir toujours. Il n'y a pas d'homme qui n'ait son faible. C'était là celui de Monsieur Wititterly.
« S'il vous plaît, monsieur, » dit Nicolas. Puis, renouvelant ses excuses d'un si brusque départ, il enlève, pour ainsi dire, Catherine dans le fiacre, et il recommande au cocher de les emmener de bon pas à la cité.
C'est donc vers la cité qu'ils coururent en effet, autant du moins qu'on peut l'espérer d'un fiacre. Ils se trouvèrent justement que les coursiers demeuraient à la Chapelle Blanche et qu'ils avaient l'habitude d'y retourner déjeuner, les jours où ils déjeunaient. L'espérance du Picontin leur fit donc presser la course avec plus d'activité qu'on ne devait raisonnablement s'y attendre. Nicolas envoya devant lui Catherine prévenir en haut sa mère pour qu'elle ne fût pas alarmée de son apparition subite. Et quand elle fut préparée, il se présenta devant elle avec beaucoup de respect et d'affection.
Newman, de son côté, n'avait pas perdu de temps. Il avait déjà une petite charrette à bras à la porte, et l'on se dépêchait d'y transporter les effets.
Mais, par exemple, Madame Nickleby n'était pas femme à se presser jamais, pas plus qu'à compromettre à demi-mot les choses qu'on voudrait effleurer à raison de leur importance ou de leur délicatesse. Aussi, bien que la bonne dame eût déjà eu à subir une préparation d'une grandeur de la part de la petite Mademoiselle La Cravey, et qu'elle fût en ce moment éclairée sur la situation par les explications les plus claires de Nicolas et de sa sœur tout ensemble, elle était encore dans un état d'égarement et de confusion si étrange qu'elle ne voulait comprendre pour rien au monde la nécessité de préparer ainsi les choses.
« Pourquoi, mon cher Nicolas, ne demandez-vous pas à votre oncle quelles pouvaient être en cela ses intentions ?»
disait Madame Nickleby.
« Ma chère mère, » répondit Nicolas, « ce n'est plus le temps d'aller discuter avec lui. Nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de le rejeter loin de nous avec le plus grand mépris et l'indignation qu'il mérite. Votre honneur, votre réputation exigent qu'après la découverte de sa conduite infâme, vous ne lui ayez plus aucune obligation, pas même l'abri qu'il vous donne entre ces quatre murs. »
« Vous avez bien raison, » dit Madame Nickleby, pleurant amèrement. « C'est une brute, un monstre, et ces quatre murs ne sont pas même cachés sous un badigeon. Si ce plafond est propre, c'est que je l'ai fait blanchir au lait de chaux pour 36 sous. Et je ne peux pas me consoler de penser que c'est 36 sous qui vont passer dans sa poche. Je n'aurais jamais pu croire cela, jamais. »
« Ni vous, ni moi, ni personne, » dit Nicolas.
« Bonté du ciel !» s'écria Madame Nickleby. Et dire que Sir Mulberry Hawk était un aussi mauvais sujet que l'a dépeint Miss La Cravey. Moi qui me félicitais tous les jours de voir ses attentions pour notre chère Catherine. Moi qui pensais qu'au bonheur que ce serait pour toute la famille s'il alliait avec nous et qu'il s'intéressât à vous procurer quelques bonnes places du gouvernement. Il y a, savez-vous, de très bonnes places à la cour. Par exemple, une de nos amies, Miss Crapley, à Exeter, ma chère Catherine, vous vous rappelez? Eh bien, il y en avait une comme cela, et si je ne me trompe, les fonctions n'en étaient pas bien pénibles. Les plus forts consistaient à porter des bras de soie avec sa culotte courte, et une perruque avec des bourses qui ressemblaient à ces porte-montres qu'on accroche sur la cheminée. Et dire que voilà comment tout cela devait finir. Ah, vraiment, il y a de quoi en mourir, c'est sûr.
Et Madame Nickleby, en exprimant ainsi son chagrin,
rouvrait piteusement la source de ses larmes. Comme Nicolas et sa sœur étaient obligés, pendant ce temps-là, de veiller au transport de son petit mobilier, c'est Miss La Creevy qui dut se dévouer à consoler la bonne dame. Et en effet, elle lui représentait avec beaucoup de douceur qu'elle devait réellement ne pas s'infliger et reprendre courage.
« Ah, sans doute, Miss La Creevy !»
dit-elle avec une pétulance assez naturelle dans la triste situation où elle se trouvait.
« Cela vous est bien aisé à dire, du courage! Mais si vous aviez eu autant d'occasions de prendre courage que moi !»«
Et puis, » dit Madame Nickleby, tournant bride,
« songez un peu à Monsieur Pic et Monsieur Pluck, les deux plus parfaits gentlemen qui soient au monde. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille leur dire? Par exemple, si j'allais leur dire... « On m'assure que votre amie, Sœur Mulberry, est un mauvais sujet fini. Ils se moqueraient de moi !»«
Ils ne se moqueront pas plus de vous, je vous le garantis, » dit Nicolas s'avançant vers elle. « Venez, ma mère, il y a un fiacre à la porte, et jusqu'à lundi du moins, nous allons retourner à notre ancien domicile. Et vous y trouverez tout prêt à vous recevoir, et un cœur ravi de vous y voir par-dessus le marché !» ajouta Miss La Creevy. « À présent, laissez-moi descendre avec vous. » Mais Madame Nickleby n'était pas si facile à mettre en mouvement. Et d'abord, elle insista pour aller voir en haut si on n'avait rien laissé. Et puis, au moment où elle montait le marchepied de la voiture, elle crut se rappeler un petit pot de faïence qu'on avait oublié sur la tablette de l'arrière-cuisine. Et puis, quand elle fut dedans, elle se rappela avec inquiétude un parapluie vert qui devait être derrière une porte qu'elle ne pouvait dire. À la fin, outré de désespoir, Nicolas donna ordre au cocher de partir, et le choc causé par le brusque départ de la voiture fit tomber des mains de Madame Nickleby un shilling dans la paille. Heureusement, car lorsqu'elle l'eut retrouvé, il était déjà trop tard pour chercher dans ses souvenirs malencontreux ce qu'elle pouvait avoir encore oublié dans la maison. Nicolas, après avoir bien fait charger les effets, congédier la domestique et fermer la porte à clé, sauta dans un cabriolet et se fit conduire près de Golden Square, dans une rue de traverse, où il avait donné rendez-vous à Nudge. Et tout cela si lestement qu'il était tout au plus 9h30 quand il arriva.
« Voici la lettre pour Ralph, » dit Nicolas, « et voici la clé. Surtout, quand vous viendrez me voir ce soir, pas un mot devant le monde de ce qui s'est passé hier. » Les mauvaises nouvelles ne vont déjà que trop vite, et ma mère et ma sœur les sauront toujours assez tôt.
Avez-vous entendu dire s'il s'était fait beaucoup de mal ? Newman secoua la tête, voulant dire qu'il n'en savait rien.
Je cours m'en assurer sans perdre de temps.
Vous feriez mieux de prendre un peu de repos, répliqua Newman. Vous êtes malade, vous avez de la fièvre.
Nicolas lui fit signe de la main assez négligemment que ce n'était pas la peine d'en parler et dissimula l'indisposition réelle qu'il ressentait depuis qu'il n'était plus soutenu par l'excitation des premiers moments. Il se dépêcha de prendre congé de Newman Nudge et le quitta. Newman n'était pas à 3 minutes de Golden Square, mais dans le cours de ces 3 minutes, il prit et reprit la lettre dans son chapeau plus de 20 fois. Ce fut d'abord par devant qu'il voulut la voir, puis par derrière, puis ensuite des deux côtés, puis la suscription, puis le cachet, autant d'objets d'admiration pour Newman. Puis enfin, il la tint à la longueur de bras, comme pour en examiner délicieusement l'ensemble. Et après tout cela, il se frotta les mains, heureux comme un roi de la commission dont il s'était chargé. Il ouvrit son bureau, pendit son chapeau au clou accoutumé, posa la lettre et la clé sur la table et attendit avec impatience que Ralph Nickleby fît son apparition. Il n'attendit pas longtemps. Au bout de quelques minutes, le craquement bien connu de ses bottes résonna en haut de l'escalier et la sonnette se fit entendre.
« La poste est-elle venue ?»«
Non. »«
Y a-t-il d'autres lettres ?»«
Une. »
Newman la mit sur son bureau en la considérant attentivement.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?»
demanda Ralph en prenant la clé déposée avec la lettre.
« Un petit garçon les a apportés ensemble. Il n'y a pas plus d'un quart d'heure. »
Ralph jeta un coup d'œil sur l'adresse, ouvrit la lettre et lut ce qui suit. Je vous connais à présent. Tous les reproches que je pourrais vous faire ne vaudraient pas pour vous faire rougir de votre infamie jusqu'au fond de votre cœur. Ces simples mots. Je vous connais maintenant. La veuve de votre frère, avec sa fille orpheline, se trouverait déshonorée de chercher un abri sous votre toit. Elle vous fuit avec mépris, avec dégoût. Votre famille vous renie, votre famille qui ne se connaît pas d'autre tâche que les liens du sang et la communauté de noms qui l'unissent à vous. Vous êtes vieux. Je laisse à la tombe le soin de vous punir. Puissent tous les souvenirs de votre vie s'attacher à votre mauvais cœur pour le ronger et envelopper de leurs noires ombres votre lit de mort. Ralph Nickleby relut cette lettre avec l'expression la plus sombre et devint profondément rêveur. Le papier était échappé de ses mains et déjà tombé par terre, qu'il avait les doigts crispés comme s'il le tenait encore. Tout à coup, il se lève en sursaut de sa chaise, il fourre la lettre toute chiffonnée dans sa poche et se retourne furieux du côté de Newman Nodge, comme pour lui demander ce qu'il faisait là. Mais Newman se tenait immobile, le dos tourné à son maître, suivant, avec le tronçon usé et noirci d'une vieille plume, une liste de chiffres sur une table d'intérêt affichée contre la muraille. Son attention tout entière à ses calculs semblait détachée de tout autre objet.